bonne nouvelle d'après Luc, lecture suivie de l'évangile de Saint Luc dans une traduction transposition de Vincent-Paul Toccoli, salésien de Don Bosco.
Le décor est donc planté. C'est comme si une espèce de prologue aux trois derniers jours, c'est-à-dire au cœur même de ce qu'on appelle le mystère de l'incarnation, le mystère de la rédemption et ce fameux mystère de la résurrection. Ces trois actes définitifs de la vie de Jésus vont se passer maintenant dans les textes qui suivent de la fin de l'évangile de Luc. Mais le décor est planté, je veux dire que voyez dans quel immense arrière-fond cosmique cela se joue. C'est vraiment la fin d'une époque, la fin d'une ère, la fin d'une façon de penser, de voir, d'imaginer l'inimaginable et de dire l'indicible. Nous arrivons à la fin des religions. Nous arrivons à la fin des essais par l'homme de représentation de Dieu, avec tout leur cortège de liturgie, de temple, avec tout leur cortège d'hymnes, avec tout leur rite. Dans le texte qui va suivre, à un moment donné, le voile du temple va se déchirer. Le voile du temple, c'est celui qui était entre le Saint et le Saint des Saints, c'est-à-dire cette arcane, ce lieu secret, cette grotte primordiale dans laquelle le grand prêtre désigné n'entrait qu'une fois l'an pour pouvoir brûler de l'encens devant ce que nous appellerions le tabernacle, la petite temple, la petite tente où il y avait l'arche d'alliance contenant le bâton de Moïse, du sable du désert. Bref, toute l'histoire de ce peuple depuis plus de 10 siècles, la vénération du passé comme étant le garant de l'avenir, certes, mais il se trouve que dans les jours qui vont venir, dans cette semaine sainte, tout cela va voler dans l'éclat des étoiles, puisque le Fils même de Dieu et Dieu lui-même est venu accomplir tout ce que ces préparations multiples sur toute la terre, et en particulier dans ce paysage désertique qu'est Israël, s'est déroulé. Alors, c'est difficile à atteindre. Nous sommes encore sous le règne des religions, nous-mêmes. Il est difficile à l'homme de ne pas faire de religion, parce que l'accès directement à Dieu, à la foi par Jésus-Christ, est tellement difficile, tellement aléatoire. Il faut le contrôler. Alors on contrôle, et on refonde des religions.
La fête des pains sans levain approchait. Avec la fête de la Pâque, c'était les plus grandes. Quoique d'origine différente, on les confondait pratiquement tellement elles étaient liées. D'après l'usage de Jérusalem, les agneaux étaient immolés au temple dans l'après-midi du 14e jour du premier mois, le mois de Nisan, généralement en avril. En ville, on consommait les agneaux le soir, en famille, ou en groupe de 10 à 20 personnes. Dès le soir du 14, tout le vin devait être proscrit et l'usage du pain fermenté interdit pendant 7 jours. En célébrant l'antique libération d'Égypte, Israël se rappelait et actualisait les bienfaits de Yahvé dans l'espérance du Messie qui devait venir. C'est la plus grande fête de l'année. Comme la Pentecôte et la fête des Tentes, elle attirait à Jérusalem de nombreux pèlerins. Certains membres des familles de l'aristocratie sacerdotale, titulaires des plus hautes charges, cherchaient la manière de supprimer Jésus, sans ameuter le peuple qui lui était favorable. Le mal envahit Judas, l'homme de Kériote, qui faisait partie des 12. Judas prit rendez-vous avec les grands prêtres et les commissaires de la police du temple. On l'accueillit avec plaisir et on fixa un prix. Le marché fut conclu. Et Judas se mit à chercher une occasion favorable pour le leur livrer à l'insu de la foule. Vint le jour de la fête. Jésus prit l'initiative d'envoyer Pierre et Jean pour tout préparer. « Où veux-tu que nous mangions la Pâque ?» En entrant dans la ville, vous verrez un homme avec une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Vous direz au propriétaire, « Le maître te fait dire, « Où est la salle où je vais manger la Pâque avec mes disciples ?» Il vous montrera la pièce du haut. C'est grand et aménagé, c'est là. » Tout se passa comme prévu, et quand l'heure fut venue, on prit place autour de la table. L'atmosphère était toute spéciale, on sentait que quelque chose allait se passer. « J'ai tellement désiré manger cette Pâque avec vous avant de mourir. » Croyez-moi, jamais plus je ne la mangerai avant que nous nous retrouvions ensemble, avec tous les hommes, dans le bonheur et la paix de Dieu. » On lui tendit alors une coupe. Il rendit grâce. « Prenez-la et partagez entre vous. Je ne boirai plus de raisin avant que ne vienne le règne de Dieu. » Puis il prit du pain. Il rendit grâce à nouveau. Il leur rompit. Et leur donna. C'est mon corps donné pour vous. Puis après quelques secondes d'émotion lourde, que cela vous serve de mémorial. La voix se cassa. Chacun attendait. La main de celui qui me livre se serre à cette table avec moi. Il faut que j'accomplisse mon destin, mais malheur à celui qui me livre. Aussitôt autour de la table, tous de se demander les uns aux autres qui cela pouvait bien être. Et de fil en aiguille, en ce moment pourtant terrible, voici que la discussion dérive et qu'ils se querellent maintenant pour établir quel est le plus grand d'entre eux. C'est moins par agacement que par imperceptible découragement que Jésus éleva la voix. « Les rois agissent en seigneur, les dominateurs se font appeler bienfaiteurs du peuple. Mais pour vous, que le plus grand prenne la place du dernier et le chef la place du subalterne. Qui est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? Celui qui est à table? Non. Eh bien, moi, au milieu de vous, je suis le serviteur. » La voix, cette merveilleuse et multiple voix de Jésus s'adoucissait. Vous êtes, vous, ceux qui ont tenu bon avec moi dans mes épreuves, et moi je vous dis que vous mangerez et boirez à ma table chez mon Père. Les 12 tribus d'Israël, c'est vous qui les jugerez. Les disciples ne savaient que dire. Quand son regard rencontrait l'un d'eux, c'était un sourire qui signifiait un grand désarroi, à la fois une grande joie et une grande peur. « Simon, Simon, Jésus semblait pleurer en murmurant ces mots. Satan vous a réclamé pour vous secouer dans un crible comme on fait pour le blé. Mais moi, Simon, j'ai prié pour toi pour que tu ne perdes pas la foi. Alors, quand il faudra, sache affermir tes frères. » « Mais, voulut renchérir Pierre, avec toi je suis prêt à aller en prison, même à la mort !» Jésus esquissa un pauvre sourire plein de compréhension. « Vois-tu, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies par 3 fois nié me connaître. » Et tandis que maintenant l'angoisse avait jeté sa chape de plomb dans la grande pièce sombre où vacillait la flamme des lampes, Jésus s'adressa à tous. « Lorsque je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, « avez-vous manqué de quoi que ce soit ?»« De rien. »« Eh bien maintenant, c'est différent. Si vous avez un sac, une bourse, prenez-les avec vous. Et si vous n'avez pas d'épée, vendez votre manteau et allez en acheter une. L'Écriture a annoncé ce qui va m'arriver. » On l'a compté parmi les criminels. Eux s'étaient affairés. Jacques, en tremblant, lui présentait déjà 2 épées. « Ça suffit !» La voix de Jésus claqua sec. Il se leva et prit la direction du mont des Oliviers. On le suivit.
Vous vous rendez compte de cette atmosphère? Vous imaginez ce qu'a pu se passer dans ce dernier soir, ce dernier repas, ce repas d'adieu? On ne sait pas encore ce qui va se passer exactement, parce que nous avons la suite. Eux ne savent pas encore ce qui va se passer. Deuxièmement, est-ce que vous imaginez qu'il y ait eu quelqu'un qui ait pris des notes pour pouvoir ensuite rédiger pour Paris Match ou je ne sais quoi le résumé précis avec l'envoyé spécial de ce qui s'est passé? Ce qui a été transmis, c'est ce que chacun, d'abord les 12 présents, était censé retenir pour sa propre gouverne, transmettre ensuite aux autres, aux communautés, parler entre eux. Et vous savez que racontant, ajoutant, tranchant, réélaborant, comme on dit, les textes, bien sûr, sont tous véridiques, ils sont le témoignage, comme un procès-verbal d'un accident devant le commissariat. Ils disent la vérité, mais ils la disent du point de vue, et surtout du point de vie où ils étaient. Et lui, qui n'était pas là, et qui rapporte des choses qu'il a entendues, il a fait son enquête, nous dit-il au début du texte, et c'est encore lui qui nous rapporte. Et il nous rapporte, je répète, ce qu'il a recueilli. Et puis il ne l'écrit pas le lendemain, la semaine d'après, un mois après, grand reportage. Il l'écrit au cours des années qui séparent les années 30 des années 70 et 80. Et ce n'est qu'en 80 que nous avons le texte définitif. Mais ce qui reste, à travers les quatre évangiles et les synoptiques, c'est cette atmosphère où quelque chose se livre qui va devenir une mémoire. La mémoire des chrétiens, c'est le corps et le sang du Christ, habilités qu'ils sont par sa parole à le rendre présent, donc à rendre présent la mémoire, mot à mot, à représenter la mémoire du Christ. Alors ça, oui. Alors c'est pour ça que c'est terrible, parce que c'est une immense responsabilité dont les sources ont été historiques, mais dont nous ne savons pas exactement ce qu'il en est. Regardez la distribution de la coupe par rapport au pain après ici. Chez Paul, dans Corinthiens, ce sera une autre transmission. Jean ne parle même pas de la dernière scène. Marc et Matthieu le font, dans d'autres termes. Tout cela est bien mystérieux. La mémoire est une mémoire mystérieuse. C'est-à-dire que si je ne retrouve pas, au fond même de la foi que Dieu met en moi, et au fond même de l'attente que j'ai de ma propre résurrection, si je ne mets pas au fond de tout cela la conviction que c'est de moi qu'il s'agit dans cette mémoire, et que je deviens, moi, à mon tour, la mémoire du Christ dans le temps, alors je regarde l'événement, mais j'y assiste, je n'y participe pas.
C'était une bonne nouvelle d'après Luc, une traduction et un commentaire de Vincent-Paul Toccoli. Daniel Chavy a prêté sa voix pour la lecture. Merci et à bientôt.